Volume présente 20 ans après de Alexandre Dumas, lu par Loïc Richard. Chapitre 1er, le fantôme de Richelieu. Dans une chambre du palais cardinal que nous connaissons déjà, près d'une table à coin de vermeil, chargée de papiers et de livres, un homme était assis la tête appuyée dans ses deux mains. Derrière lui était une vaste cheminée, rouge de feu, et dont les tisons enflammés s'écroulaient sur de larges chenets dorés. La lueur de ce foyer éclairait par derrière le vêtement magnifique de ce rêveur, que la lumière d'un candélabre chargé de bougies éclairait par devant. À voir cette simarre rouge et ses riches dentelles, à voir ce front pâle et courbé sous la méditation, à voir la solitude de ce cabinet, le silence des antichambres, le pas mesuré des gardes sur le palier, on eût pu croire que l'ombre du cardinal de Richelieu était encore dans sa chambre. Hélas, c'était bien en effet seulement l'ombre du grand homme. La France affaiblie, l'autorité du roi méconnue, les grands redevenus forts et turbulents, l'ennemi rentré en deçà des frontières, tout témoignait que Richelieu n'était plus là. Mais ce qui montrait encore mieux que tout cela que la simarre rouge n'était point celle du vieux cardinal, c'était cet isolement, qui semblait, comme nous l'avons dit, plutôt celui d'un fantôme que celui d'un vivant. C'était ces corridors vides de courtisans, ces cours pleines de gardes. C'était le sentiment railleur qui montait de la rue et qui pénétrait à travers les vitres de cette chambre ébranlée par le souffle de toute une ville liguée contre le ministre. C'était enfin des bruits lointains et sans cesse renouvelés de coups de feu, tirés heureusement sans but et sans résultat, mais seulement pour faire voir aux gardes, aux Suisses, aux mousquetaires et aux soldats qui environnaient le palais royal, car le palais cardinal lui-même avait changé de nom, que le peuple aussi avait des armes. Ce fantôme de Richelieu, c'était Mazarin. Or, Mazarin était seul et se sentait faible. « Étranger, » murmurait-il. « Italiens, voilà leur grand mot lâché. Avec ce mot, ils ont assassiné, pendu et dévoré Concini. Et si je les laissais faire, ils m'assassineraient, me pendrait et me dévorerait comme lui, bien que je ne leur ai jamais fait d'autre mal que de les pressurer un peu. » Les niais. Ils ne sentent donc pas que leur ennemi, ce n'est point cet Italien qui parle mal le français, mais bien plutôt ceux-là qui ont le talent de leur dire des belles paroles avec un si pur et si bon accent parisien. « Oui. Oui, » continuait le ministre avec son sourire fin, qui cette fois semblait étrange sur ses lèvres pâles. Oui, vos rumeurs me le disent, le sort des favoris est précaire. Mais si vous savez cela, vous devez savoir aussi que je ne suis point un favori ordinaire, moi. Le comte d'Essex avait une bague splendide et enrichie de diamants que lui avait donné sa royale maîtresse. Moi, je n'ai qu'un simple anneau avec un chiffre et une date. Mais cet anneau a été béni dans la chapelle du palais royal. Aussi, moi, ne me briseront-ils pas selon leurs vœux? Ils ne s'aperçoivent pas qu'avec leur éternel cri « À bas le Mazarin !» je leur fais crier tantôt « Vive Monsieur de Beaufort !» tantôt « Vive Monsieur le Prince !» tantôt « Vive le Parlement !» Eh bien, Monsieur de Beaufort est à Vincennes, Monsieur le Prince ira le rejoindre un jour ou l'autre, et le Parlement... Ici, le sourire du cardinal prit une expression de haine dont sa figure douce paraissait incapable. Eh bien, le Parlement... Nous verrons ce que nous en ferons du Parlement. Nous avons Orléans et Montargis. Oh, j'y mettrai le temps. Mais ceux qui ont commencé à crier « À bas le Mazarin » finiront par crier « À bas tous ces gens-là, chacun à son tour. » Richelieu, qu'il haïssait quand il était vivant, et dont il parle toujours depuis qu'il est mort, a été plus bas que moi. Car il a été chassé plusieurs fois, et plus souvent encore, il a craint de l'être. La reine ne me chassera jamais, moi. Et si je